Alors, moi, j'ai une question par rapport à la différence entre un docteur et un non-docteur dans le recrutement, mais de manière générale dans sa valorisation, même après le recrutement, pour monter en grade, pour avoir un meilleur salaire, pour tout ce qui différencie, voilà, nous, docteurs, qu'est-ce qu'on peut faire mettre en avant? J'ai vu que c'est pas toujours évident, surtout en France, je vois, où les docteurs ne sont pas toujours reconnus à leur valeur telle qu'ils le sont à l'étranger. On nous considère souvent comme des bac plus 5, un peu théoriques, avec 3 ans d'expérience derrière, ou des choses un peu intermédiaires. Et voilà, comment se faire valoir en tant que docteur, avant et même après le recrutement, en fait.
Oui, tout à l'heure, je vous ai un peu tendu la perche. Je vous dis, j'ai passé un doctorat de sciences éco et je suis entré dans une entreprise industrielle, pétrolière. Aucun rapport entre mon sujet de thèse, qui m'avait intéressé, qui m'avait passionné, de sociologie économique, où j'avais travaillé Saint-Thomas-d'Aquin et je me trouvais effectivement dans un milieu industriel. Alors, sans doute, docteur atypique. Mais ça veut dire que dans ce que vous apporte votre thèse de doctorat, il y a deux choses différentes. Il y a une expertise dans un domaine extrêmement pointu, et actuellement, vous avez toutes et tous, vous êtes en dernière ligne droite pour la plupart d'entre vous, vous avez nez dans le guidon, et vous ne pensez effectivement qu'à votre excellence, c'est-à-dire qu'à votre sujet de thèse. Et c'est ce que vous allez vendre, et ce n'est pas forcément ce qu'on va acheter. Alors, l'autre avantage. L'autre point fort que vous avez pour moi, titulaire d'un doctorat, c'est de dire, vous avez fait preuve pendant 3 ans de curiosité intellectuelle, vous avez développé des qualités d'innovation et vous avez fait preuve également de rigueur dans l'observation, le contrôle des résultats. Vous avez associé effectivement ces deux qualités qui ne sont pas toujours effectivement faciles de trouver chez la même personne. Donc un doctorat, c'est pour moi. Alors quand j'étais aux affaires HL, ma tasse de thé, mon miel, c'était l'ingénieur docteur. C'est-à-dire formation, grande école et doctorat. Avec les avantages, il faut que vous soyez capable également d'argumenter sur les points forts et les points faibles d'une formation universitaire par rapport à une formation école. C'est le point de départ. Et dans la formation universitaire, ce qu'apporte le doctorat. Alors, être capable d'argumenter sur les pédagogies différentes, je caricature un peu, c'est peut-être de moins en moins vrai, mais ça reste vrai. Quand on regarde les résultats des diplômes universitaires, dans les 2 premières années, il y a un taux d'échec qui est catastrophique, qui est extrêmement coûteux pour tout le monde, les intéressés, la nation, c'est une catastrophe. Il y a 60 ou 70% d'échecs. Alors, survivent des gens qui ont appris effectivement à être autonomes. L'école et la classe préparatoire et l'école ne vous apprend pas l'autonomie, vous apprend autre chose. Mais si vous avez effectivement décroché, même au niveau de la maîtrise, vous prouvez effectivement au recruteur que vous avez pu vous organiser, que vous avez pu gérer votre temps et l'absence de garde-fou, puisqu'il n'y a pas de garde-fou dans les premières années, l'absence de garde-fou et le fait d'avoir traversé le gué sans garde-fou, c'est effectivement quelque chose d'important et que vous devez pouvoir mettre en avant. Il faut effectivement savoir s'organiser dans un milieu qui est un milieu un peu anarchique. Encore une fois, je caricature un peu, les choses sont en train de changer, mais ça reste quand même tout à fait vrai. Donc vous avez pu prouver effectivement des qualités d'automotivation, des qualités d'auto-organisation, vous avez pu organiser votre temps, vous avez appris à travailler seul et vous avez appris à travailler sans consigne. À côté de ça, votre copain, votre frère, qui a suivi le parcours classe préparatoire et école, a été, lui, hyper encadré. C'est-à-dire qu'il a peut-être des qualités d'innovation, de créativité et d'autonomie, mais il ne les a pas acquis par le système dans lequel il a développé ses études. Donc il faut que vous soyez capable, effectivement, d'argumenter là-dessus. Et ensuite, il y a l'apport de la thèse. Même si le sujet de thèse n'intéresse en rien votre recruteur, ce qui est encore une fois mon cas et peut-être un peu atypique, mais ce qui peut arriver, le fait de recruter un docteur, je recrute quelqu'un qui a, vous l'avez dit, 3 ans d'expérience, mais qui, dans ce temps, a appris effectivement à poser des hypothèses, à faire preuve de créativité, c'est un sujet par définition nouveau, d'innovation, en même temps de rigueur, qui a appris à travailler également seul ou avec un encadrement relativement léger, mais qui sait rendre compte de temps en temps à son patron de thèse. Donc tout ceci, ce sont des qualités humaines qui m'intéressent, des qualités générales qui m'intéressent énormément, indépendamment de votre sujet de thèse. Donc il faut que vous soyez capable, selon l'attente également de l'entreprise, de dire, mais finalement, qu'est-ce qui va l'intéresser? Le fait que j'ai travaillé sur tel comportement d'un coléoptère africain en période de reproduction, ça peut être ça si effectivement vous avez un contact hyper précis, mais ça peut être, je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment l'entreprise auprès de laquelle je candidate, mais ce qui l'intéressera, c'est les méthodes de travail que j'ai utilisées et la façon dont je me suis développé, dont je me suis formé pendant mes 3 années de thèse. Là aussi, la connaissance de l'interlocuteur doit vous aider à dire « je mets en avant effectivement mon expertise dans un domaine hyper pointu » ou « je mets en avant le fait que pendant ces 3 ans, j'ai appris à travailler » et que cette façon d'apprendre à travailler est extrapolable à d'autres activités qui vont intéresser l'entreprise. Je réponds à votre question.
On peut différencier avec quelqu'un qui aura fait une grande école, par exemple, ingénieur ou autre, qui va dire « je viens de telle école, ok, on sait ce que vous faites ». Les docteurs en France, en général, j'ai l'impression que, comme vous le dites, il faut tout leur expliquer parce qu'ils ne savent pas ce que c'est.
Oh, ça, c'est de moins en moins vrai. Parce qu'il y a de plus en plus de docteurs intégrés dans les entreprises.
Ça change. Donc, les docteurs recrutent des docteurs. Hein, on en a vu pas mal. Donc ça, c'est de moins en moins vrai. Mais c'est vrai qu'il faut prouver, c'est vrai.
Attendez, moi, quand j'étais encore une fois aux affaires, j'avais un fichier, informatique quand même, hein, mais j'avais un fichier des formations dans lesquelles je pouvais puiser. Ce fichier, il était mis à jour par quelqu'un de mon équipe, mais enfin, ce n'était pas un travail quotidien. Bon, aujourd'hui, établissez la liste des maîtrises des différentes universités françaises, c'est infernal, quoi. Il vous faudra, sur le papier, il vous faudra 40 pages. Donc, la multiplication, effectivement, des appellations de diplômes rend la visibilité des formations universitaires pour les recruteurs extrêmement faible. Et il reste, effectivement, un nombre limité. Vous avez raison de dire... moi, j'ai quelqu'un qui sort des arts et métiers. Bon, c'est pas la peine qu'il me fasse un discours. Gazard, je sais ce que c'est. Hein, parce que ça... Alors, peut-être, justement, le point faible, c'est que j'allais terminer ma phrase en disant « parce que ça n'a pas changé », si ça a changé. Mais justement, un des points faibles, c'est la relative rigidité ou fixité des écoles par rapport à la souplesse de la formation universitaire. Mais vous pouvez argumenter là-dessus. Disant effectivement, ma maîtrise n'est pas connue parce qu'elle est délivrée uniquement dans 3 universités en France, mais ça veut dire que c'est du cousu main. Alors que les formations d'ingénieurs, faites gaffe si vous avez un ingénieur en face de vous, hein, utilisez des propos modérés ou ajoutez quelques bémols à ce que je vous dis, mais vous êtes sorti effectivement d'une institution. Alors l'institution, avec ce que ça peut avoir, de figer. C'est faux, comme ce que je dis de l'université est également faux. L'école évolue, mais il n'empêche que les formations, je peux beaucoup plus facilement trouver une formation sur mesure m'intéressant dans le fouillis des diplômes universitaires que dans la liste des écoles. Alors, il faut que vous soyez capable d'argumenter là-dessus. Et si vous avez en face de vous un homme intelligent... ça peut arriver même chez un recruteur. Si vous avez en face de vous un homme intelligent, il n'attendra pas de vous que vous fassiez une hiérarchie, mais que vous puissiez argumenter en disant « Moi, j'ai appris, j'ai un cursus universitaire qui m'a appris, premièrement, à me débrouiller seul parce que au début, j'étais livré à moi-même, d'organiser mon temps, d'organiser mon travail. J'ai appris de l'autonomie, j'ai appris des tas de choses. que je n'aurais peut-être pas appris dans le circuit bien matérialisé des classes préparatoires et des grandes écoles. Il fut un temps, il y a quelques années, je vous aurais dit, il y a un autre point faible constaté, effectivement, des formations universitaires, c'est stage et langue. Bon, c'est en train également de s'atténuer largement et ça joue de moins en moins. Oui, ben parce que vous pouviez, moi quand j'ai terminé mes études, je pouvais parfaitement ne pas avoir appris un mot d'anglais, quoi. J'avais fait de l'anglais en parallèle, mais il n'y avait pas de formation de langue étrangère, alors qu'à la sortie d'une école, vous avez pratiquement toujours effectivement un contrôle. Et puis toutes les écoles ont mis en place des stages avant que les universités ne s'y mettent. C'est de moins en moins vrai. Une des faiblesses des formations universitaires, on en parlait tout à l'heure, c'est le réseau. C'est que votre réseau est en général à créer ou insignifiant ou non structuré. Alors que quand je reprends l'exemple de la plus ancienne école d'ingénieurs de France, le réseau des Gazards, c'est une force extraordinaire, quoi. Il y en a partout. Donc là, c'est facile de décrocher le téléphone et de dire à un collègue que vous avez trouvé dans l'annuaire, moi je postule auprès de ta boîte, quelles sont leurs attentes, comment ça se passe, etc. Donc mais il faut que le réseau existe, ça a été une des faiblesses. Mais soyez capable d'argumenter, parce que moi c'est une des questions que je pose pratiquement toujours, que vous a apporté sur un plan pédagogique et non pas les connaissances acquises, parce que les connaissances acquises, elles peuvent être la même à la sortie de l'école et à la sortie d'un master ou même à la sortie d'un doctorat, ça peut être tout à fait comparable, mais quelles sont les différences de pédagogie et en quoi vous avez été formé? C'est pour ça que j'ai tendu la perche aussi tout à l'heure. Moi, j'ai fait Sciences Po Paris en parallèle avec une formation universitaire. Ça m'a donné l'occasion de dire, finalement, que m'apporte Sciences Po Paris. J'ai appris à travailler à Sciences Po Paris.
C'est la différence entre savoir et savoir-faire ici. Parce que peut-être le savoir, on se défendra. Le savoir-faire, après, c'est autre chose. Quand on sort, quand on est tout frais, on sait pas toujours mettre les mains dans le cambouis et passer à la pratique.
Ah oui, ben ça, c'est le stage, hein. C'est le stage qui vous l'apporte essentiellement. Hein. Le stage, c'est l'occasion, effectivement, de mettre en pratique de façon opérationnelle les connaissances que vous avez acquises dans vos études. C'est le stage ou c'est les CDD que vous avez pu avoir avant de postuler en CDI. Mais non, c'est essentiellement les stages.
Hein. Vous ne vous y trompez pas aussi, lorsqu'on vous recrute, l'entreprise ne va pas exiger. Soyez totalement opérationnel, autonome et tout ça, c'est pas vrai. Il y a quand même un temps, nous on le voyait, hein, pour avoir reçu quelques nouvelles d'anciens qui nous disaient, effectivement, il y avait d'autres personnes, ils déboulaient dans le labo et on leur laissait quand même le temps de prendre un peu la connaissance et la mesure du labo. Hein, donc, c'est vrai que s'il y a un caractère urgent, on vous demandera de vous impliquer très très rapidement.
L'entreprise aussi, elle fait beaucoup plus attention à l'insertion des recrutés qu'auparavant. Donc, en toute logique, vous aurez un tuteur qui vous permettra d'intégrer au mieux l'entreprise. Et ça fait vraiment partie des questions que vous avez à poser à la fin de l'entretien. Si on ne vous en a pas parlé, c'est vrai, il faut poser des questions à la fin. Si on ne vous en a pas parlé, n'hésitez pas à demander comment est prévue votre intégration au sein de l'entreprise. Est-ce qu'un tuteur va être là? Comment ça va se passer? Tout ça, il faut poser des questions. Et pour revenir sur ce qui a été dit précédemment et par rapport à votre complexe, entre guillemets, de docteur par rapport à l'ingénieur, ou vos inquiétudes, d'abord renseignez-vous sur la formation de la personne qui va vous recevoir. Allez sur Facebook, essayez de voir si la personne vient de l'université ou si elle vient d'une grande école. Et après, je crois qu'il faut mettre les choses à plat, c'est-à-dire, quel est le plus de l'ingénieur par rapport à vous et quel est le plus du docteur par rapport à l'ingénieur. Si déjà vous travaillez dessus, vous essayez de le comprendre et puis de donner les arguments pour les uns ou pour les autres, ça sera aussi plus facile pour vous, tout bêtement. Il faut être très pratique dans la préparation d'un entretien et d'un recrutement.
Attention à votre façon, effectivement, il faut poser des questions, mais attention à la manière de demander sur un tuteur, parce qu'il ne faut pas qu'on sente là derrière que j'espère qu'il y aura un tuteur, quoi, hein, parce que là, ça tue tout, hein, tout ce que vous aurez fait au préalable, on est bien d'accord, c'est plutôt dans le bon sens du terme. Non, parce que c'est important en com, hein, c'est vrai que c'est mon dada, mais vous pouvez exprimer ce que vous voulez de façon très différente et vous verrez que les objectifs ne seront pas les mêmes, quoi, hein, c'est très très important, hein. Et puis, vous ne pouvez pas aussi jouer sur le fait de vous montrer très confiant, très rassuré, etc., en étant complètement abattu, quoi. Il y a ça aussi qui se joue, hein. Il y a le non-verbal, hein, dans l'entretien, hein. Il y a effectivement tous les mots, tout le discours, etc. Mais on est très attentif à vos attitudes, à votre gestuelle et à toute votre communication non-verbale. Et celle-ci, elle vous trahit. Hein, parce que vous êtes de plus en plus coaché, on le sait. Vous êtes de plus en plus préparé. Donc, et on a des candidats qui déboulent avec un discours très surfait, mais une attitude qui ne suit pas. Hein. Regardez les chefs, les hommes politiques, hein, aujourd'hui. Ils sont tous hyper drivés, hyper coachés. Sarkozy et Hollande et autres, et autres, et autres, ont des cabinets derrière qui les font énormément travailler, etc. Donc, amusez-vous un peu aussi et exercez-vous. Hein. C'est très, très important, ça.
Il y a plusieurs remarques, effectivement, sur les questions pièges. Donc, vous ne serez pas piégé si, effectivement, vous vous assumez, si vous êtes vous-même. Si vous composez un personnage, comme celui que vient d'évoquer effectivement Neymar, là vous risquez, parce que si vous avez en face de vous deux ou trois vieux lascars, ils ne tomberont pas dans le piège, si on n'a qu'un, ça peut marcher. Si on a deux ou trois un peu rodés, ça ne marchera pas, et ils vont effectivement faire tomber le masque. Si vous n'avez pas de masque, vous ne risquez pas effectivement d'être piégé. Le piège, c'est si vous vous proposez un personnage. Être honnête et s'assumer, être soi-même. Bon, je sais ce que je vaux, et croire ce qu'on m'en dit, etc. Se connaître soi-même, ça évite effectivement le piège.
J'ai vu des garçons ou des filles qui sortaient d'instituts spécialisés, de préparation justement aux grandes écoles, où ils avaient énormément travaillé sur leur aspect, leur discours, etc. Et on creusait un peu et on pouvait s'apercevoir que derrière, il y avait du vide, où il y avait des contradictions. Parce que c'est pas facile, si vous êtes un grand comédien, vous arriverez peut-être à jouer la comédie devant deux ou trois personnes successives. Jouer la comédie et jouer un rôle qui n'est pas réellement le vôtre, devant trois recruteurs un peu rodés,